Les paris 100% rugby sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Thomas Lombard.
Le match d'ouverture de la 15e journée du top 14 au programme aujourd'hui avec Stade Français Brive ce soir à 20h45. Et puis on pariera en deuxième partie d'émission sur la NBA avec Cyril Méjeanne. Mais tout de suite, j'accueille Christophe Payet, notre expert en paris sportif. Salut Christophe.
Salut Benji.
Et monsieur Thomas Lombard, notre consultant rugby. Salut Thomas.
Salut.
Christophe, match de la dernière chance pour le Stade Français. On le dit régulièrement dans cette émission, mais les faits sont là. Le champion de France en titre est seulement à 14 points de la 6e place. C'est impressionnant, la dernière place qui offre un ticket pour les phases finales. La rencontre qui sonne clairement comme un match charnière pour le Stade Français face à Brive.
Oui, il va y en avoir plusieurs, hein, des matchs de la dernière chance, même si le Stade Français s'impose contre Brive, parce que effectivement, ils sont quand même loin des barrages, mais ils sont quand même archi favoris. 1-22, la victoire du Stade Français, 20, le nul, 4, la victoire de Brive. C'est pas si évident que ça de trouver le scénario, parce que le Stade Français s'est déjà pris les pieds dans le tapis deux fois à domicile, Brive a gagné déjà à Oyonnax et à Pau, et gagner à Paris, ça semble quand même un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, Brive, sur les 7 derniers déplacements, n'a gagné qu'une seule fois sur le terrain du Stade Français. Logiquement, quand même, victoire du Stade Français, mais c'est que 1-22, alors je le jouerai entre 1 et 10. C'est coté à 2-50. C'était le cas lors des deux dernières saisons.
En début de saison, Thomas, si on nous avait dit à la 15e journée que Brive serait dans le wagon des qualifiables et que le Stade Français serait à 14 points de la 6e place, on ne l'aurait pas forcément cru.
Non, pas forcément, même si Brive avait un coup à jouer parce qu'il n'y avait pas énormément de joueurs mobilisés sur la Coupe du Monde. Sur ce qu'ils avaient montré l'an dernier, il y avait quand même une base de jeu assez solide, même si c'était un rugby quand même axé sur la conquête et sur la défense. Après, voilà, il y a eu des circonstances favorables. Le Stade Français, lui, a souffert beaucoup, la digestion du titre, la Coupe du Monde, et puis un groupe qui n'a pas su aussi peut-être retrouver suffisamment d'énergie. Donc ça fait beaucoup. Maintenant, ils sont au pied du mur. Et je sens qu'il y a une possibilité pour eux de faire un match plutôt intéressant ce soir, même s'il y a des joueurs qui sont sur le banc. On pense à Plisson notamment, ou des autres joueurs qui ont évolué pour le 15 de France dans les deux premiers matchs du tournoi. Moi, je vois le Stade Français entre 11 et 20.
Le Stade Français entre 11 et 20, c'est coté à 3-10.
Voilà, je vois ça. Parce que je pense que la perspective pour eux, c'est d'aller chercher le... pas l'écart au score le plus important, ils n'ont pas le droit de parier, mais en revanche, c'est d'aller chercher le bonus. Faut qu'ils fassent 5, faut qu'ils mettent 5 à domicile, 5 points. Donc voilà, ça pourrait faire ça à l'arrivée. S'ils n'arrivent pas à mettre des bonus à domicile contre des équipes qui sont supposées, je dirais, plus faibles, ça sera trop compliqué pour eux. Puis je rajoute quand même le petit supplément de motivation où lors du match aller à Brive, les stadistes s'étaient fait quand même bien bousculer. Donc il y a un peu d'amour propre derrière tout ça et sans doute une partie de la préparation qui sera axée là-dessus.
Dis-moi Thomas, le Stade Français marque 3 essais au minimum à 2-0-5. Faut le jouer ou pas?
Bah, ce sera leur... Ce sera leur but hein, dans cette rencontre et dans toutes celles qui vont venir, c'est-à-dire d'inscrire toujours au minimum 3 essais pour avoir le 5e point ou alors le point de bonus du bonus offensif quoi qu'il arrive, même en cas de défaite. Donc c'est évidemment c'est capital pour eux. Ce qu'on sait, c'est que c'est une équipe qui produit un rugby qui est quand même basé sur la vitesse, sur le mouvement. C'est l'héritage Jeff Dubois entre autres. Donc il n'y a pas de raison qu'ils changent leur fusil d'épaule. Et toutes les conditions sont bonnes aujourd'hui à Paris. Ouais. Il fait beau. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas.
Donc ça, c'est 2-0-5.
C'est une grosse défense, hein, les brévistes.
Ouais. Et il y a une autre cote à 2-0-5. Pourquoi pas, hein. C'est le Stade Français gagne les demi-temps.
Ah, ça... Autant les 3 essais, j'ai envie de dire oui tout de suite. Ouais. Autant là-dessus, les brivistes, ils vont chercher des points. Ils sont dans la première moitié du tableau. c'est pas le genre d'équipe à baisser la garde et à lâcher prise. Hein. Donc gagner les demi-temps, tu vois, tu peux avoir un score de parité ou un score à l'avantage de Brive à la mi-temps. En fin de match, que ce soit pour le Stade Français, je dis pas le contraire. Heureusement pour mon prono d'ailleurs, mais attention à ça. Attention, c'est risqué.
Le pari de Thomas, le plus intéressant, la cote à 3,10 pour le Stade Français par 11 à 20. Et on se retrouvera tout au long du week-end pour les paris rugby avec notamment Castres-Clermont demain en début d'après-midi. Et puis le traditionnel, le toujours très intéressant Oyonnax-Toulon qui aura lieu dimanche. Thomas, on te retrouve avec nous dans les grandes gueules du sport, je suppose. Donc repose-toi bien parce qu'affronter Serge Chimon, c'est jamais évident. Salut Thomas.
Salut les amis.
Ciao.
Comme promis, on passe au basket et on accueille tout de suite notre consultant NBA, Monsieur Cyril Méjeanne, avec moi en studio. Salut Cyril.
Bonjour tout le monde.
Salut Cyril.
Chicago, Toronto, Utah, Boston et Atlanta, Miami au programme. Christophe, on va profiter de la présence de Cyril pour faire le récap, puisque hier dans l'émission, on pariait déjà sur la NBA.
Oui, bravo Jacques qui avait donné la victoire des Clippers contre San Antonio. Malheureusement, il avait donné un écart entre 1 et 10. Et il aurait fallu jouer le plus 10, cote de 8, ça aurait été génial. Victoire de Cleveland contre Chicago, ça c'était le coup sûr, on l'avait donné. Et puis on s'est trompé sur Utah qui n'a pas gagné à Washington et qui s'est même lourdement incliné. Donc bilan mitigé mais quand même positif pour Jacques.
Et les Spurs vont retrouver une nouvelle fois le Staples Center puisqu'ils vont jouer contre les Curs. On n'a pas mis le match aujourd'hui, on vous dit tout parce que la cote est ridicule.
1-0-3
seulement, mais les Spurs ont l'occasion de se rattraper dès cette nuit. Il y a également un déplacement de Golden State du côté de Portland. Nous, on va s'intéresser à un duel à l'Est, Christophe, pour débuter avec d'un côté les Bulls de Chicago, de l'autre les Raptors de Toronto.
Oui. Alors celui-là, il n'est pas évident du tout, parce que Toronto me paraît beaucoup trop favori, 1,35 et 2,60 la victoire de Chicago. Alors peut-être Cyril va pouvoir m'expliquer ça, surtout que Chicago a gagné déjà deux fois contre Toronto, à Chicago le 29 décembre et à Toronto le 3 janvier. Alors certes, les Bulls restent sur 5 défaites d'affilée, mais il y en avait 4 à l'extérieur, et Toronto est en road trip, et peut-être qu'ils vont commencer à sentir la fatigue, les Canadiens. Donc j'ai envie de tenter le gros coup, là, et aussi bien sûr pour la cote de 60, même si la logique c'est de jouer les Raptors, j'ai envie de tenter le gros coup, une huitième victoire consécutive de Chicago, série en cours, parce que Toronto, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas battu les Bulls.
Mais ils ne sont pas en road trip, hein, Christophe, il y a eu le All-Star break entre-temps.
Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais je voulais dire qu'ils étaient sur une série de matchs à l'extérieur. Pardon. Ouais,
effectivement, et ce qui explique la cote de Chicago, Cyril, c'est peut-être la confirmation que Butler ne sera pas là sur le parquet.
Oui, et puis en plus, alors, comment l'expliquer ? Alors bon, déjà, il y a la défaite d'hier soir contre Cleveland. Est-ce que le fait que Pau Gasol était prêt à être, entre guillemets, tradé avant la limite des transferts qui était hier soir, un peu comme dans le foot, il y a le mercato qui se finit en général le 1er février et puis pareil en août. Hier soir, il y avait la fin des transferts NBA. Est-ce que voilà, cette possibilité pour Pau Gasol de partir, ça l'a un petit peu gêné et fait en sorte que ça a un peu déstabilisé le groupe? Et à un moment, il faut être honnête, hein, il cherchait à se débarrasser de Gasol. Ça avait été le cas pour Noah aussi. Bon, Noah étant blessé, au moins, t'es tranquille, tu ne peux pas le trader. Peut-être que finalement, il y a un vrai problème à Chicago, que ça devient compliqué. On sait qu'il y a aussi des soucis avec le coach parce que ça ne se passe pas très bien. Et voilà, il y a une dynamique qui n'est pas extraordinaire. Une défaite comme ça hier contre Cleveland avec autant de points, bon, il y a 11 points, ça me paraît beaucoup, même si c'était à Cleveland. Je pense que c'est logique que Toronto soit favori. C'est sur la continuité de ce qui s'est passé avant le All-Star Break. C'est sur la continuité du fait que les joueurs de Toronto sont en pleine forme, qu'on a un coach qui est de vraiment, vraiment très bonne qualité, et que cette équipe de Toronto, bah finalement, peut aller en finale de conférence Est et aller embêter cette équipe de Cleveland. Peut-être pour ça qu'il y a une cote aussi importante. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu large, ça me paraît vraiment un peu large. Maintenant, je vais quand même jouer Toronto et je vais jouer Toronto entre 1 et 10.
Alors, Toronto entre 1 et 10, c'est 2,15. Le meilleur compromis, c'est pas la Simonade avec Chicago ou Toronto par moins de 5 à 1,70.
Je vais quand même rester sur Toronto entre 1 et 10, ça me paraît... Ça me paraît risqué malgré tout. Après, la victoire de Chicago peut passer, hein, mais voilà, il y a le problème d'absence de Butler, il peut y avoir le problème de Gasol qui est plus dedans, à voir. Je vais rester sur mon 1 et 10.
Toronto par 1 à 10. On n'a pas parlé des transferts. Effectivement, c'était cette nuit la deadline, mais on n'en a pas parlé tout simplement parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose par rapport à ce qui était attendu. Hein, Dwight Howard, Pau Gasol, Kevin Love, ils sont tous restés chez eux. Ils n'ont pas bougé.
À l'Est, il y a surtout l'arrivée de Fry aux Cavs, ouais, qui vient d'Orlando, qui est quand même c'est quelque chose quand même d'assez important pour eux, même s'ils ont entre guillemets perdu Varejao, mais bon, perdu, c'est vite dit. Et non, le vrai transfert, il est à l'Ouest avec l'arrivée de Jeff Green aux Clippers, et là, c'est le meilleur coup qu'ils aient pu faire. Et en plus, ils se sont débarrassés de Lance Stephenson, et ça, bravo, bravo, bravo.
Et bravo à Jacques Monclar qui l'avait annoncé hier dans l'émission, même si c'était effectivement dans les tuyaux. Non, il n'y avait pas de pari. Moi, je suis pas mécontent aussi de cet échange Feuille-Augustine qui ne servait plus à
Denver.
Rien. Et l'échange avec Oklahoma City.
J'ai vu ça sur ton Twitter, t'en as parlé.
Exactement. Utah face à Boston. Cyril, deux équipes qui n'ont pas été impliquées dans le marché des transferts, qui vont être dans la continuité. Utah, Christophe, à domicile, qui est favori ou pas face à Boston?
C'est très équilibré. Hein. 76 Utah, 82 Boston. Utah qui reste sur deux défaites. Après une belle série, on est quand même encore à 70% de victoire sur les 10 derniers, mais Boston c'est mieux. C'est 80. Et à part la défaite à Milwaukee, il n'y a que des victoires sur les 5 derniers. C'est pas évident ce match-là. C'est pour ça que c'est si équilibré. Mais je trouve que Boston est quand même un ton au-dessus. Les Celtics sont 3e à l'Est. Il y a peut-être un petit coup à faire avec, pourquoi pas, une victoire de Boston, mais entre 1 et 10, à 2,50.
Victoire de Boston entre 1 et 10. J'ai dit une petite bêtise. Il y a juste un joueur qui est arrivé du côté de Utah, Cyril, c'est Shelvin Mack. C'est pas vraiment important pour cette équipe du Jazz.
Ouais, alors je dis peut-être une bêtise, mais bon, il risque de pas beaucoup jouer. Et c'est vrai que c'est pas très très important. En tout cas, ça fait pas partie des trades vraiment importants.
Ça change pas pour les paris sur ce match.
Je vais te suivre, Chris, sur la victoire de Boston, parce qu'une fois de plus, c'est un peu comme Toronto. C'est un beau collectif, c'est une équipe assez logique avec un très bon coach, et ça fera partie des équipes qui vont finir en tête de la conférence Est avec les Cavs et avec Toronto. Une fois de plus, les cotes m'interpellent un peu. C'est un peu bizarre. Peut-être que c'est après le All-Star Break, ils mettent des cotes un peu différentes et on joue les victoires à domicile. Je ne sais pas. Mais oui, je vais te suivre sur le 1 et 10 pour Boston.
C'est vrai que généralement, après le All-Star Break, il y a pas mal de victoires à domicile. Hein. Souvent, des grosses surprises, c'est compliqué de se remettre en route.
Surtout que les mecs sont partis en vacances. Hein. On l'a vu avec nos Français. Ils sont tous revenus le lundi matin ou lundi après-midi à l'entraînement. Et derrière, il faut enchaîner deux jours après. On l'a vu pour les Spurs hier soir, ça a été compliqué.
Exactement. Donc, méfiance, ne mettez pas trop d'argent. On vous l'a déjà dit hier, même si le récap a été plutôt bon. On va terminer avec Atlanta-Miami. Christophe, une équipe de Miami que tu aimes bien. Généralement, tu aimes bien jouer les grosses cotes avec Miami. Est-ce que tu vas le faire sur cette rencontre?
Mais là, je ne comprends pas non plus. 1-11 Atlanta, 4-40 Miami. Alors ok, Miami a perdu des matchs récemment, 3 sur les 5 derniers, mais bon, Atlanta c'est kiff-kiff, quoi. Puis au niveau de la forme du moment, c'est à peu près la même chose. Au niveau du classement, c'est 4e contre 5e. Alors pourquoi 1-11 et pourquoi 4-40? Je dois avouer que j'ai un petit souci, surtout que Miami a gagné 2 des 3 confrontations, dont une à Atlanta le 15 décembre.
Ne dis pas que tu vas quand même jouer le 4.
Non, je vais jouer 1 euro. Je vais jouer mon pari à 1 euro. Sur Miami par plus de 10.
Ouais. Est-ce que
la cote est à 20?
Non, mais on va essayer de tenter. On va tenter
sinon,
de.
Bien évidemment que la logique c'est Atlanta, mais 1-11, c'est que.
Non, mais je pense que l'explication elle réside tout simplement avec l'absence de Chris Bosh, hein, Cyril, victime d'une embolie pulmonaire. Ça fait mal quand même dans le 5 majeur de Miami d'enlever Chris Bosh.
Ouais, c'est un peu. De toute façon, il était out juste avant le All-Star Break. Il devait faire le All-Star Game d'ailleurs. C'est un vrai souci. Hein. C'est comme un joueur comme Butler. C'est un joueur qui est très important dans le collectif de Miami. Il a pris un vrai rôle depuis le départ de LeBron James. Il shoot beaucoup plus extérieur. Après, il y a une arrivée à Atlanta, hein, puisque tu parlais des trades depuis le début.
Capitaine Kirk.
Eh oui, Kirk Hinrich, ça c'est une vraie arrivée. Et du côté de Miami,
55 ans, on le rappelle.
Le côté de Miami, l'arrivée de Brian Roberts des Hornets, franchement, on s'en fout. Donc ça change pas grand chose. Et puis surtout, c'est pas un poste où ils avaient besoin de monde. Donc logique que Atlanta
mais
gagne.
Mais 1-11.
Ouais, ça me paraît.
Ils auraient pu la mettre à 1-35, à 40.
Moi, je comprends.
Qu'on les appelle, qu'on se plaigne.
Moi, je comprends parce qu'on voit les interviews. Ils sont tous très touchés, hein, parce qu'il arrive à Chris Bosh. On voit D-Wade, il est, enfin, c'est plus le D-Wade habituel avec le sourire. On voit, il a le masque, Cyril, en conférence de presse. Il est presque aussi touché que la famille de Chris Bosh. C'est son ami depuis toujours, donc c'est compliqué.
Ouais, et puis il y a eu plein de problèmes actuellement en NBA. Tout le monde soutient tous les joueurs qui ont des soucis ou les coachs comme Mark Jackson qui a perdu sa femme. Donc oui, il est très touché. Ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble maintenant. Ils sont potes avec LeBron James. C'est Carmelo Anthony, c'est une vraie bande de potes. Donc ouais, moralement, et puis en plus Miami, on sait qu'à l'extérieur, ça a quand même été assez compliqué, mais c'était un peu mieux avant le All-Star Break. Je vais mettre Atlanta par plus de 10 pour faire grimper la cote.
Alors, Atlanta par plus de 10, 1,85.
C'est pas beaucoup, hein. Pour la prise de risque, c'est pas beaucoup. Hein.
Oh, mais tu restes là-dessus.
Oui, oui, bah oui.
1,85.
On est d'argent. D'accord sur la victoire d'Atlanta, mais je mets quand même 1 euro sur la cote de 20.
Oui, t'as raison, dans l'absolu.
Ça, c'est après des cotes comme ça, il faut tenter.
La
victoire de Miami à Atlanta, elle était par plus de 12.
C'est vrai. Non mais ça se tente, on va le mettre sur le Twitter des paris RMC pour Christophe.
Voilà.
De toute façon, comme Christophe après il se rendort, il va hiberner, Christophe qui est un petit peu malade.
Surtout parce que c'est une catastrophe.
Voilà, et nous ça nous touche.
Il y a Chris Anderson qui est parti de Miami.
Oui, aussi le Birdman qui est parti. Nous on est très touchés par ce qui arrive à Christophe Payet avec Cyril puisqu'on l'aime beaucoup Christophe, donc on va aller se consoler un petit peu tous les deux en mangeant ensemble. Allez, merci Christophe, merci Cyril.
Ciao.
Ciao messieurs.